Le dictionnaire Larousse. Alors, Monsieur Larousse nous dit c'est un système politique dans lequel la souveraineté émane du peuple. Bon, le pouvoir oligocratique nous dit que, ce concept dont nous attendions à découvrir la définition au cœur même de la constitution oligocratique, parce que Larousse le définit, mais donc on va voir la constitution, et on va voir si la constitution nous définit ce que c'est que la démocratie. Eh bien, on se rend compte qu'il n'est tout simplement pas défini par le pouvoir en place, ni au moyen de son texte fondateur, c'est-à-dire la Constitution, ni par ce que j'ai appelé les productions de ses exégètes médiatiques, c'est-à-dire ni par ce que disent ses héros. Héros, H-E-R-A-U-T-S. Bon. Cette absence de définition est tout simplement remplacée par une affirmation allant de soi, telle que celle qui est énoncée dans le premier article de la Constitution, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Voilà, vous êtes à la définition du mot démocratique. Nous sommes donc conviés par cet article liminaire à entériner le fait que la France est officiellement une démocratie, sans que pour autant on nous explique ce que c'est qu'une démocratie. Alors, au niveau du mouvement de la décroissance, futur parti pour l'après-croissance, nous disons que la démocratie, c'est un système politique dans lequel le pouvoir d'édicter les règles coercitives est exercé exclusivement par le peuple. Et en fait, nous constatons que notre définition reprend l'esprit de celle du Larousse, mais en la précisant. En effet, il est probable que les rédacteurs du Larousse ont eu peur de nommer clairement un chat un chat, en traduisant la souveraineté maintenant du peuple, puisqu'ils disent que la démocratie, c'est un système politique dans lequel la souveraineté émane du peuple, ils ont eu peur de dire que la souveraineté émanant du peuple, par le peuple, pouvoir exercé par le peuple, que c'est vraiment le pouvoir exercé par le peuple. Cette retenue, sans doute provoquée par le sentiment que les représentants du pouvoir oligocratique actuel aurait pris ombrage de ne pouvoir être clairement défini comme démocrate par le dictionnaire de référence, ça n'a apparemment pas eu de prise sur les rédacteurs du Robert, et là on se rend compte que le Robert est souvent beaucoup plus courageux que le Larousse, qui, lui, par contre, le Robert, précise qu'en démocratie, ce sont les citoyens qui exercent la souveraineté, ce qui n'est pas la même chose. Dire que la souveraineté émane du peuple, et dire que ce sont les citoyens qui exercent la souveraineté, c'est quand même différent. Il ne reste pas moins vrai que dans un cas comme dans l'autre, que ce soit dans le cas du Larousse ou dans le cas du Robert, le terme souveraineté n'est pas défini dans le texte explicatif, et que nous devons aller chercher sa définition du terme souveraineté ailleurs. Alors, sur ce point, les deux dictionnaires s'accordent tout de même pour désigner la souveraineté comme étant le pouvoir suprême, c'est-à-dire le pouvoir qui l'emporte sur tous les autres. Il en ressort donc que la souveraineté, si on veut savoir ce que c'est, c'est exercer le pouvoir suprême. Alors, si on veut continuer notre raisonnement et qu'on veut achever la construction de notre définition précise de la démocratie, il nous reste donc maintenant à définir les contours de ce pouvoir suprême. D'un point de vue constitutionnel, la notion de pouvoir, elle repose généralement sur trois piliers, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Ceux-ci pouvant être complétés d'un point de vue courant par d'autres pouvoirs, tels le pouvoir des médias, celui des corporations, des multinationales, etc. etc. Mais d'un point de vue objectif, le pouvoir législatif, pris dans son sens générique, c'est-à-dire le pouvoir d'édicter des règles coercitives, dire des règles dont la non-observation entraîne des sanctions mises en œuvre par une force ayant le monopole de la violence légale, eh bien c'est le seul pouvoir qui n'est pas soumis à la volonté d'aucun des autres pouvoirs énumérés par ailleurs. Parce que le pouvoir exécutif est soumis au pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire est soumis au pouvoir législatif, etc. etc. Et donc, il apparaît que ces soi-disant autres pouvoirs, que sont l'exécutif, le judiciaire, le médiatique, le corporatisme, ne sont en réalité que des fonctions, des missions ou des rôles. D'ailleurs, dans la constitution démocratie directe, on ne nomme qu'un seul pouvoir, c'est le pouvoir législatif. Les autres, on les appelle des missions. Voilà. Et ces pouvoirs ne disposent que d'une latitude d'intervention dans le cadre limité et dans le respect des règles édictées par le pouvoir suprême, le pouvoir législatif. Alors, il ressort de ce raisonnement que la souveraineté est donc concrétisée du point de vue de l'exercice de la vie politique par la mise en œuvre du pouvoir législatif. La souveraineté, c'est la mise en œuvre du pouvoir législatif. Et donc, par conséquent, la démocratie désigne un système politique dans lequel le pouvoir législatif est exercé exclusivement par l'ensemble des citoyens. Voilà, voilà le raisonnement qui nous amène à, expliquer notre définition. Alors, on constate que c'est naturellement pas le cas, et là on revient sur la définition de l'oligocratie, c'est pas le cas du système actuel dans lequel les règles coercitives sont édictées par un groupe très restreint de personnes. Cette conclusion nous permet en passant de dénoncer le caractère contradictoire, voire fallacieux de l'article 3 de la Constitution de 1958 qui stipule que la souveraineté nationale appartient au peuple. Appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Or, si la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir suprême, appartient au peuple, ça signifie que c'est uniquement le peuple qui peut exercer ce pouvoir et pas ses représentants. Donc l'article est contradictoire. De plus, il est fallacieux parce que dans cet article, le peuple ne peut exercer sa souveraineté par la voie du référendum, puisque les articles 11 et 89 suivants stipulent que la mise en œuvre du référendum ne relève pas du peuple, mais du président de la République ou de la majorité du Congrès. Donc, c'est non seulement contradictoire, mais c'est même mensonger.
Alors, cette constitution, c'est pas une constituante tirée au hasard.
Ben, qui a écrit la constitution de 58 ? Ben, c'est Michel Debré et Charles de Gaulle qui l'ont écrite. À eux deux.
Voilà. On est dans le souverainisme,
souverain. Ah ben, oui. Bon, c'est comment De Gaulle a été appelé. Il a été appelé par Guy Mollet aux abois, parce qu'il y avait putsch en Algérie. On a voulu... En fait, c'est la démocratie, puisque Guy Mollet, c'est la 4ème République. La 4ème République, c'est la fille de la 3ème. C'est vraiment la République démocratique et tout. Bon, qui a dit... nous voulons un dictateur pour nous sauver. Bon, le dictateur, il a fait une constitution dictatoriale. Hein, il n'a pas torturé. Et alors, bon, ce stratagème, parce que vraiment, l'article 3, c'est un stratagème extraordinaire. Hein.
Et ce stratagème... Mais la constitution à l'époque, elle était validée par un suffrage universel,
non ? Oui, monsieur. Ah bah oui. Ah bah oui, référendum, absolument. Ah bah oui, mais là, à l'époque, De Gaulle, il faisait valider l'acte de naissance de sa fille, tout le monde votait à 80%, là, il faisait passer n'importe quoi. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est les affiches. Dans la vidéo sur la démocratie directe, vous le verrez. Les affiches de l'époque, voter la Constitution, ben derrière, tu as De Gaulle avec en général qui lève les mains de victoire, et derrière la Croix de Lorraine. Tu vois, c'est donc Paris outragé, Paris martyrisé, mais enfin Paris libéré. Bon, avec ça, tu faisais passer n'importe quoi après.
Et il y avait une opposition à l'époque ou en fait il était seul à proposer quelque chose?
Ah mais l'opposition c'est à c'est Guy Mollet qui est allé chercher De Gaulle, hein? C'est la SFIO, c'est les socialistes qui en sont allés chercher De Gaulle. Alors je pense bien que ça a été un raz-de-marée. Voilà, donc. Ce qui était très malin dans cette constitution, c'est justement de faire passer cette constitution qui est arbitraire, hein, qui est une porte ouverte. C'est pas une porte, c'est une véranda grande ouverte sur l'arbitraire. Tu peux faire ce que tu veux avec cette constitution, de la faire passer pour quelque chose de démocratique. Alors, tu cherches la définition de la démocratie, tu dis, mais attendez, C'est comme quand le gars dit je dois aller prendre mon train, mais il te dit mais regardez l'article 1. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est écrit. C'est écrit que c'est démocratique.
Quand tu donnes à manger aux gens, un machin ou une politique, comme tu dis, machin, c'est ça qui compte, c'est là. T'as pas de contre-pouvoir. C'est fort, c'est machin, etc. Tu peux passer n'importe quel texte, comme tu dis, les gens ne sont pas forcément. Ne prennent pas le corps des problèmes. Ou ils ne voient pas venir. Surtout la faiblesse.
Attends, Gilles, on n'a peut-être pas bien entendu là, ça faisait des vagues un peu au niveau de la sono.
Ah ouais, là je vais monter dans le bus, il va être 7h.
Ouais.
Donc, oui, non, mais ça, on en parle. De toute façon, cette histoire de constitution, écrite par qui, par quoi, avec l'histoire de la constitution américaine.
Mais la constitution américaine est beaucoup plus intéressante à la fois d'un point de vue juridique, mais bien foutue. Et alors il faut pas oublier non plus que la constitution américaine, elle est antérieure, hein, la première constitution de vraiment de liberté, c'est la déclaration d'indépendance américaine, et c'est antérieure à 1789, hein. C'est deux ans avant. Ah oui, oui. Oui. Et dans la Constitution américaine, il y a la référence au bonheur. C'est-à-dire que, dans la déclaration d'indépendance, hein, préambule de la Constitution, il y a que, en fait, l'organisation collective, l'organisation sociétale, c'est-à-dire tous les dirigeants qui vont diriger le pays, ils ont pour objectif le bonheur de leurs administrés. Il a fallu attendre quand même 1793-14 pour que Saint-Just dise que le bonheur, c'était quelque chose qu'il fallait inscrire aussi dans la Constitution. Ben, c'est les Américains qui l'avaient fait avant. Bon.
Donc, on valide le texte aujourd'hui ou on attend toujours pareil que les gens aient écouté le débat?
Ben, aujourd'hui, on est quand même 4. Hein.
Ouais, celui-là, on peut le faire.
Bon, ceci dit, faut pas se presser ni se mettre. C'est-à-dire que ça peut si quelqu'un entre temps, je pense qu'il faut réécouter, il faut relire, réécouter le MP3. Et puis à tout moment, je pense que quelqu'un, justement, il faut que ça soit pas coulé dans le marbre à partir du 15 septembre ou du 30 septembre, je ne sais pas quoi, mais qu'à tout moment, quelqu'un puisse dire, mais concernant la ligocratie, j'ai un amendement, même si c'est en mars 2022, j'aimerais qu'on en parle. Voilà, faut que ça reste vivant, hein, notre truc.
Oui, oui. On peut quand même dire à 4 dire que les gens un peu réagissent, je ne sais pas quoi, aux enfants en anglais, qu'on a discuté d'un texte, donc on va le valider dimanche prochain, voilà, on va faire tout dynamique.
Ah ben les oui, d'accord. Mais les podcasts seront de toute façon diffusés au niveau des adhérents. Et puis, pour ce qu'on a dit tout à l'heure, si c'est un peu long, bon, on verra les remonter. Hein. Bon. Après, il faudra peut-être faire des synthèses. Parce que bon, le principe, c'est sans coupure. Hein, sans coupure. Mais peut-être qu'il faudra faire des synthèses. Bon, ça fait des ressources intéressantes qu'on peut toujours retravailler.